L'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Ce soir, nous célébrons la République.
Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can.
L'atelier du pouvoir.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Et bien voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de l'Atelier du Pouvoir, l'émission qui, chaque samedi de 12h45 à 13h30 sur France Culture, vous propose un autre regard sur la politique, loin des petites phrases, loin des polémiques éphémères. La politique à travers ceux qui la font, les lieux où elle se passe, la politique à travers son histoire, ses rituels. Bref, mieux comprendre son fonctionnement avec évidemment cette année une attention toute particulière portée à l'élection présidentielle avec ses temps, ses lieux et ses figures imposées. Et puis aussi une nouveauté cette année, Vincent, dans l'émission.
Et oui, mon cher Thomas, puisque nous sommes très heureux d'annoncer que l'équipe de l'Atelier du Pouvoir s'élargit avec l'arrivée d'Ariane Chemin, avec qui je présenterai l'émission en alternance avec vous et qui nous apportera son enthousiasme et son regard passionné sur la politique dont elle connaît les coulisses par cœur.
Eh bien, ces coulisses, nous allons justement y entrer dès maintenant, sans tarder, en nous interrogeant dans les trois quarts d'heure qui viennent sur la singularité du moment politique dans lequel nous nous trouvons. C'est la question du jour, mon cher Vincent. Qu'est-ce qu'une élection ? Qu'est-ce qu'une année présidentielle ?
Eh oui, ça y est, c'est parti. Nous sommes entrés de plein pied dans l'année présidentielle. Les éditorialistes s'échauffent, les candidats sortent du bois, les couteaux sont tirés et les sondages nous annoncent des futurs contradictoires pour cette échéance qui attire déjà tous les regards. L'expression « année présidentielle » est un marronnier des médias, fruit d'une excitation et d'une anxiété générale. Tout le monde l'emploie sans toujours savoir ce qu'elle signifie. Elle fait aussi soupirer ceux qui jugent qu'elle dure beaucoup trop longtemps et qu'elle incarne l'attention excessive portée à l'élection phare sous la Ve République. Elle concentre en effet tous les ingrédients du système politico-médiatique en démocratie. Spectacularisation de la vie publique, extension du temps de la campagne par les médias, mais aussi par les primaires, hyper-personnalisation et surtout un débat d'idées trop souvent réduit à des postures de communicants et non pas à l'échange d'arguments raisonnés et contradictoires. Année des scénarios annoncés, elle est aussi parfois celle des surprises, de ces incursions des électeurs dans un jeu qu'ils trouvent trop écrit à l'avance et qu'ils souhaitent chambouler. Que nous dit l'année présidentielle du temps en politique et comment a-t-elle évolué depuis 1965 ? Est-elle, comme on le croit trop souvent, jouée à l'avance ? En quoi l'année qui s'ouvre sera-t-elle singulière par rapport aux élections précédentes ? Alors que nous abordons une année extraordinairement riche en événements, primaire de la droite en novembre, puis de la gauche en janvier avant l'élection en avril et en mai prochain, ce sont les questions passionnantes que nous abordons avec nos invités dans ce premier atelier du pouvoir de la saison 3 consacré au concept d'année présidentielle.
Nos invités, je vous les présente tout d'abord Jacques Attali, écrivain, économiste, entre autres, ancien conseiller spécial de François Mitterrand. Il pilote aujourd'hui un groupe de travail qui vient de publier un programme présidentiel sous le titre « France 2022 ». Publié chez Fayard. Avec nous également l'historien Jean Garrigue, professeur à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire politique et parlementaire qui republie la revue Parlement et qui lui vient de publier Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles. Très savoureux à lire, un livre coécrit avec Jean Ruhlmann aux éditions Talendier. Et puis nous conclurons cette émission par notre traditionnelle séquence internationale qui est elle aussi de retour. Nous irons tout à l'heure en Afrique centrale pour parler, c'est au cœur de l'actualité des élections présidentielles en contexte autoritaire. Nous évoquerons évidemment le cas du Gabon. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir Florence Maurice, qui est journaliste au service Afrique chez nos confrères de RFI.
Mes chers compatriotes, je n'apprendrai rien à personne en rappelant que dans 4 mois aura lieu l'élection présidentielle. C'est un rendez-vous important que la France se donne à elle-même. Je souhaite vivement que ce soit l'occasion d'un grand débat, et sur tous les sujets, y compris les règles morales de notre vie publique et le rôle et les limites des divers pouvoirs. Les problèmes que nous connaissons ne disparaîtront pas pour autant, mais la France y trouvera un nouvel élan. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Bon, évidemment, c'est un clin d'œil. On vous a fait écouter la voix de François Mitterrand, auprès duquel vous avez travaillé de nombreuses années. C'était le 31 décembre 1994, ses derniers vœux aux Français. Ce qui nous a intéressé dans cette archive, c'est le fait qu'il dise « Je souhaite que cette élection présidentielle donne lieu à un vrai et grand débat ». Et puis, il semble aussi ouvrir l'année qui s'ouvre en disant « Voilà, l'année qui s'ouvre, ça va être l'année de l'élection présidentielle ». Est-ce qu'aujourd'hui, 22 ans plus tard, on n'est pas dans une toute autre période par rapport à ce qu'est le timing même et la structure même d'une année présidentielle, Jacques Attali?
Oui, non. D'abord, mis à part les phrases personnelles si émouvantes qui parsèment ce texte, pratiquement tout ce qu'il dit pourrait être dit aujourd'hui pour l'élection présidentielle prochaine. Un grand débat, des grands sujets, des enjeux moraux, etc. Ensuite, l'élection présidentielle reste l'élection présidentielle, même si on parle d'année présidentielle qui en fait commence par définition de ce qu'est une année au mois d'avril de cette année, et non pas maintenant. Enfin, ce qui a changé, là où je vous rejoins, ce qui est très différent, c'est d'une part que le mandat présidentiel est plus que de 5 ans et non pas de 7 ans, et que les pouvoirs du président de la République ont énormément diminué depuis le temps de François Mitterrand. Par la construction de l'Europe, par l'euro, par la décentralisation, par la mondialisation, par les privatisations, par toute une série de dimensions qui fait que le pouvoir présidentiel a été au sens propre du mot saigné aux quatre veines. Et donc le président est encore son apparat, mais c'est un petit peu comme un personnage de dessin animé qui court après avoir franchi la falaise. Il ne sait pas qu'il y a le vide sous ses pieds. Le président de la République a beaucoup, beaucoup moins de pouvoir, mais comme il incarne l'identité française, on maintient le décorum autour de l'élection présidentielle.
Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous venez de publier Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles. Alors vous avez pu comparer toutes les élections présidentielles. Est-ce que vous avez le sentiment que ces élections, ces années présidentielles se ressemblent toutes? Ou est-ce qu'il y a des singularités? Et si oui, lesquelles?
Bon, chaque élection est différente de l'autre. L'idée à retenir, me semble-t-il, c'est que de plus en plus, et je rejoins ce que disait Jacques Attali, au fond, l'élection présidentielle, c'est une élection en trompe-l'œil, puisque c'est le rendez-vous majeur de notre vie politique. Il l'est de plus en plus, et il a été renforcé par la loi du quinquennat, qui a, au fond, soumis l'élection législative à l'élection présidentielle. Mais, au fond, on voit qu'on élit un président qui a de moins en moins de pouvoir, ce qui n'était pas le cas à l'époque du général de Gaulle ou de François Mitterrand. Et que finalement, cette compétition se transforme uniquement en une compétition de posture et de personnalité, et pour aboutir à ce que cette sorte d'émulsion instantanée qui précède de quelques mois le rendez-vous électoral aboutissent au bout de quelques semaines à un désaveu collectif.
Oui, mais quand on lit votre livre, on a l'impression que ça a toujours été un peu comme ça. C'est pas d'aujourd'hui. En fait, on regarde un peu votre description même de la campagne de 65 avec le général de Gaulle qui se place un peu au-dessus. Tous les autres sont un peu dans des petites postures, y allant de sa petite phrase pour déstabiliser la stature du général.
Oui. Il y a d'ailleurs un grand paradoxe en 1965, c'est que celui qui devient le principal adversaire du général de Gaulle, c'est-à-dire François Mitterrand, quelques mois plus tôt, a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Coup d'État permanent », dans lequel il était le plus critique, il menait une critique au vitriol, précisément, de l'élection présidentielle et des pouvoirs du président de la République. Donc, il y a un paradoxe, mais sur le plan stricto sensu du tempo de l'année présidentielle, le général de Gaulle, il entre en scène un mois à peine avant le premier tour. Donc l'élection présidentielle, l'année présidentielle se résume quasiment à un mois, même si il faut rappeler qu'il y a eu un monsieur X à gauche qui quelques
on
mois
se demandait
plus tard,
Gaston Defferre, François Mitterrand.
Gaston Defferre n'est pas intervenu.
Jacques Attali, on parle justement, Jean Garrigue vient de parler du tempo. On sait que vous êtes quelqu'un qui est très soucieux du temps et très attentif au rythme des choses. Est-ce que justement dans son rythme, l'élection présidentielle a beaucoup évolué? À l'époque où vous conseillez François Mitterrand, au début des années, fin des années 70, début des années 80, est-ce que les campagnes étaient plus courtes, plus longues? On dit parfois aujourd'hui qu'on est en campagne permanente. Est-ce que c'était déjà le cas avant?
Ce qui est différent, c'est que François Mitterrand a été candidat en 1974, sur la base d'un programme. Il a d'ailleurs failli gagner. Et je suis de ceux qui pensent qu'il avait gagné sans les trucages des élections dans les dom-toms, mais c'est une autre question. Le programme a ensuite un peu évolué, mais tout au long du premier septennat, du septennat de M. Giscard d'Estaing, il y avait un programme présidentiel. Et on était en campagne présidentielle déjà pour 80, même si François Mitterrand avait quelques coquetteries pour admettre qu'il serait candidat. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, c'est en 81, c'est la dernière fois en France où on a pu mettre en œuvre un programme. C'est parce qu'on a passé 7 ans à le mûrir. Il y a eu des débats sur le chiffrage entre François Mitterrand et les ministres, les premiers ministres, etc., qui ont été extrêmement intenses pendant toutes les 7 ans du mandat de M. Giscard d'Estaing. Après, et François Mitterrand est assez largement lui-même responsable. Il y a eu la cohabitation dont il n'est pas responsable, mais après, dans son second mandat, il n'y avait pas grand-chose dans son programme qui a été un petit peu improvisé au dernier moment sous forme d'une lettre aux Français, ce qui indiquait bien déjà que la sonalité des engagements n'était plus là. Et puis ensuite, après, tous les candidats se sont efforcés, mordicus, de ne pas avoir de programme. Et surtout de faire comme ces coureurs de poursuite qui attendent le dernier moment pour démarrer le sprint. Et donc, on en est là. Vous savez, la politique aujourd'hui se résume à une métaphore qui est musicale. C'est comme une chanson. Mais on s'intéresse beaucoup plus à la mélodie qu'aux paroles. Et les paroles, personne n'en veut. On veut simplement... Et la mélodie, c'est quoi? C'est les postures, c'est les attitudes. Et on croit que c'est ça. Et naturellement, on est ainsi en situation de tragédie, puisque notre pays a besoin de programmes, a besoin de projets, a besoin d'un vrai débat. On cache la réalité extraordinairement tragique de notre pays en ne faisant pas ce débat. Et la dynamique présidentielle, la dynamique du spectacle, dans laquelle tout le monde est complice, les hommes politiques, les journalistes, tous ceux qui rêvent d'une petite phrase pour avoir une reprise de leur émission narcissiquement dans les agences, contribue à ce vide. Nous sommes dans l'année du vide et non pas dans une année présidentielle.
Et justement, vous avez le sentiment que la responsabilité de cette évolution tient aux médias, à l'évolution institutionnelle des primaires, par exemple?
Les médias sont un reflet. Ils font ce qu'ils ont à faire dans un contexte particulier. Ça tient essentiellement à ce que... Ça tient à notre pays très profondément. Je crois que notre pays a très peur de ce qu'il est, très peur de son avenir, et préfère se jouer la comédie, par exemple de s'intéresser au Burkini, Pokémon, à la démission d'un ministre ou d'un autre, plutôt que s'intéresser au sujet de fond. Mais c'est consciemment, c'est un pays qui préfère ne pas voir les problèmes. Et les hommes politiques, naturellement, renchérissent sur cette volonté d'aveuglement collectif dans lequel les médias participent, parce que c'est leur fonction que d'encourager ce qui est à la mode.
Jean Garrigue, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur cette question du tempo et du rythme?
Oui, alors je souscris à ce que vous dites sur la dernière élection programmatique, qui me semble être celle de 81, et celle de 74 était très intéressante parce que justement elle mettait en lumière et en compétition trois modèles de société, celui de François Mitterrand, celui de Valéry Giscard d'Estaing et celui de Jacques Chaban-Delmas, et à cet égard, elle était beaucoup plus riche que celle d'aujourd'hui. Et ce qui me semble aujourd'hui, c'est que en fait, le dernier moment où un projet a semblé surgir, à droite, à gauche, comme au centre, d'ailleurs, c'est l'élection de 2007. Et il me semble que, d'ailleurs, ça s'est marqué par une sorte de surcroît de mobilisation dans tous les camps, une sorte d'enthousiasme de rénovation de la vie politique. Et ce qui s'est passé après, c'est-à-dire l'échec du quinquennat Sarkozy et l'échec du quinquennat Hollande, nous amène aujourd'hui à une situation d'éclatement, de désolation totale du paysage, dans lequel justement se bousculent les postures, hein, et dans une situation d'une attente extrême, justement, de souffle, de destin, de prophétie de la part des citoyens, et contrastant avec précisément cette espèce d'émiettement médiocre au fond des candidats.
C'est Jean-Pierre Raffarin, je crois, l'ancien Premier ministre, qui avait employé le terme de campagne présidentielle permanente, liée à la fois au quinquennat et à l'introduction des primaires. Est-ce que Jacques Attali et Jean Garrigue, vous souscrivez à cette idée que finalement l'élection présidentielle commence, la campagne présidentielle commence quasiment le jour même de l'élection d'un nouveau président, Jacques Attali?
Ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours été le cas. Quand M. Pompidou a été élu, on pensait tout de suite à sa succession. Il est mort d'une façon brutale, donc l'élection présidentielle a été brutale. Mais tout de suite, la fonction d'un homme politique, s'il est élu, c'est de garder le pouvoir. S'il est battu, c'est de le conquérir.
Donc c'est pas nouveau, en fait.
C'est pas nouveau. Ce qui est vraiment profondément nouveau, c'est le vide absolu. C'est-à-dire que, alors que, comme le dit Jean-Garrigue, on a besoin de prophéties, de projets, de visions long terme, ce pays a un immense potentiel. Mais aujourd'hui, il préfère ne pas regarder, ne pas affronter les réformes qui sont nécessaires.
Jean-Garrigue.
En 1965, pour la première élection présidentielle, pour montrer à quel point on était déjà dans la prospective, le général de Gaulle disait à son Premier ministre, Georges Pompidou, il y a 5 candidats, mais il y a vous aussi, monsieur le Premier ministre. C'est pour vous montrer que déjà, à l'époque, on était en permanence autour de ce rendez-vous présidentiel.
Eh bien, justement, ça fera une parfaite transition avec une archive sonore qu'on voulait vous faire écouter. Cette archive sonore, elle parle de 1969, où on écoute un jeune candidat du PSU. C'est Michel Rocard qui répond aux questions d'Edouard Guibert sur l'ORTF. Donc, le 20 mai 1969, on l'écoute.
Eh bien, d'abord, sondage pour sondage, on a commencé à les faire avant que les vraies questions n'aient été posées à l'opinion. Souvenez-vous de 1965, les résultats finaux étaient très différents des sondages du début. On commence à peine à discuter dans cette campagne les vraies questions. Tout ce qui a été enregistré par avance, c'était sur des notoriétés établies, c'était sur la connaissance qu'on avait de monsieur un tel ou de monsieur un tel. Je ne crois pas que ce soit très important. Je suis persuadé, moi, que l'opinion tout entière, les Françaises et les Français, commencent maintenant à réfléchir attentivement à l'avenir que l'on propose à ce pays, et c'est ça qui va être en jeu.
Jacques Attali, je voudrais vous demander de réagir à cette archive de Michel Rocard, mais de manière plus générale, de répondre vraiment à cette question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que vous pensez qu'une élection présidentielle, une année présidentielle, s'est jouée d'avance? Est-ce que vous souscrivez à l'idée que finalement c'est l'objet de combinaisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec les idées, avec le débat démocratique ou avec les citoyens?
Trois éléments de réponse. Premièrement, jusqu'en 81, l'ORTF, c'était le représentant d'un État totalitaire. Personne n'avait droit à la parole, sauf pendant les élections. Je dis bien État totalitaire parce qu'il fallait l'accord de l'Élysée pour passer dans les médias. En 81, jusqu'en mai 80. Au moment de l'élection, c'était une divine surprise que d'entendre Michel Rocard, François Mitterrand, Jean Le Canuet, ou tous ceux qui s'exprimaient, mais qui auparavant... Donc c'est ça qui a été l'élément de bouleversement. Deuxièmement, chaque année, chaque élection présidentielle, il y a eu une sorte de candidat qui a surgi et qui a disparu.
Par exemple.
C'est le cas d'Édouard Balladur, c'est le cas de
Chevènement, peut-être 2002.
De Coluche, de Chevènement, de toute une série de gens. Alors qui expriment différentes choses, qui expriment d'abord l'expression d'une partie de la gauche qui est ravie quand la gauche n'est pas au pouvoir, donc qui met en avant un candidat en sachant qu'il a aucune chance d'être élu. Justement parce qu'elle ne souhaite pas que la gauche gagne, puisque sa posture de gauche de morale suppose que la droite soit au pouvoir pour pouvoir la critiquer. Mais au fond, il y a quelque chose de très profond qui, moi, est le fil conducteur de ma façon de prédire, en tout cas sur ce sujet. C'est que si vous regardez la question « pour qui allez-vous voter ?», il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'heure où nous parlons. Si vous parlez de la question « qui pensez-vous qui va gagner ?», ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. La seule question qui a du sens, c'est « qui souhaitez-vous voir gagner ?». Et plus on approche des élections, plus la réponse à cette question « qui souhaitez-vous voir gagner ?» va donner le vainqueur. Parce que les Français, au fond, à la fin, ils votent pour celui qu'ils souhaitent voir gagner. Et aujourd'hui, on est dans une quadrature du cercle, parce que les Français ne veulent plus d'aucun des gens qui sont autour de la table. Aimeraient bien de nouveau, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je dis que le prochain président de la République sera vraisemblablement un inconnu. Et je le dis très sincèrement, j'ai pas un monsieur X dans ma tête en disant un inconnu. Je pense que ça pourrait être un inconnu, le Français le veulent. Mais en même temps, nous sommes dans des temps tragiques. Où il y aura malheureusement sans doute d'autres attentats d'ici à l'élection présidentielle. Et un inconnu, c'est quelqu'un qui n'est pas très crédible en face à la tragédie de l'histoire. C'est pourquoi je pense que finalement, ils vont vouloir un des candidats les plus établis.
Sur ce paradoxe, Jean Garrigue, et sur l'idée que finalement les choses sont jouées d'avance ou pas, quel est le regard rétrospectif de l'historien ?
C'est précisément un regard diachronique. Je veux dire que chaque élection est vraiment différente de la précédente, avec un paramètre qu'il faut ajouter, qui est celui de l'élimination. Parce que comme le disait le général de Gaulle, on ne vote pas pour quelqu'un, on vote contre. Et il y a donc ce paramètre qui est très important, qui a dominé toutes les élections. Pas une seule élection ne s'est faite sans que à un moment donné, il y ait cette idée d'éliminer ce qu'avait déjà, le passé en fait, d'effacer le passé. Alors, avec cette exception peut-être de 2007, où on a l'impression là d'une sorte de renouvellement et où finalement tout le monde prend acte de l'échec de la présidence de Jacques Chirac.
Justement, au-delà des contingences, Jean Garrigue, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'une élection présidentielle, elle se gagne au travers d'un processus qui est beaucoup plus long, des dynamiques de long terme, comme par exemple le fait que si François Mitterrand est porté au pouvoir en 1981, c'est qu'il y a eu 78, qu'il y a eu des 74, cette élection presque gagnée, nous disait ouais. Jacques Attali. S'il y a 95, c'est parce qu'on solde aussi les deux septennats de François Mitterrand. S'il y a 2012, etc., etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement l'élection, l'année présidentielle, c'est le point d'arrivée d'une dynamique de très long terme?
Oui, si, évidemment, il y a toujours des mouvements de fond qui amènent à... on voit bien d'ailleurs l'émergence de François Mitterrand en 1965 et déjà le marchepied de ce qui va se passer avec la deuxième étape qui est le programme commun de la gauche en 1972, les élections législatives de 73 qui montrent une progression considérable et on arrive à 74, effectivement une élection qui aurait pu être gagnée par François Mitterrand, qui aurait peut-être dû être gagnée par François Mitterrand. Il y a donc là aussi des mouvements de fond qui se dessinent, sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, précisément, et je le disais tout à l'heure, le mouvement de fond qui avait pu se dessiner en 2007, aujourd'hui, il est contrebalancé, il est bloqué par la résistance du système politique. Et c'est pour ça que je dis que ce qu'il faut mettre en question maintenant, c'est ce système de présidentialisation.
Jacques Attali.
Oui, en effet, le pays veut, à mon avis, depuis toujours, deux choses. Il veut à la fois quelqu'un qui incarne la nation, parce que c'est pas une élection d'un Premier ministre, un président de la République, c'est complètement différent, c'est le roi, hein, il incarne la nation. Et il veut quelqu'un qui, en même temps, soit capable de porter un projet. Et en même temps, nous sommes dans une dynamique sociale globale où on a envie de nouveau tout le temps. Donc, si on regarde... dernières élections présidentielles, en tout cas après Jacques Chirac, c'était du nouveau tout le temps. Ségolène, c'était nouveau. Ségolène Royal, c'était nouveau. Nicolas Sarkozy, c'était nouveau. François Hollande, c'était nouveau. Donc chaque fois, il y a une recherche de nouveau qui est passée avant ce que je crois être la vraie demande profonde du pays, qui est un projet à 20 ans. Les Français veulent un projet à 20 ans et il n'y a personne qui le leur propose. Et aujourd'hui, on reste dans cette recherche purement du nouveau. Il y aura deux, trois nouveaux.
Et donc, quelle est la solution par rapport à ça?
La solution, c'est de créer des conditions. C'est pour ça que nous avons essayé, vous l'avez dit dans le programme que nous avons fait avec un très grand nombre de gens, puisque plusieurs milliers de Français y ont contribué, de déplacer le débat et d'avoir une primaire des programmes avant une primaire des candidats. Mais honnêtement, on n'y a pas réussi pour l'instant, nous avons fait un programme, nous avons montré qu'un programme complet, cohérent était possible, mais quand on regarde tous les programmes, les autres qui sont sur la table, gauche et droite, c'est pas sérieux.
Mais ce programme publié par Fayard, 100 jours pour que la France réussisse.
C'est pas le seul programme possible, mais c'est un programme qu'on a présenté de façon humble et modeste, mais en disant, voilà, un programme est possible, global et ambitieux. Mais les autres programmes, enfin les programmes des candidats sont étonnamment lamentables, parce qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas de chiffrage qui en donne du sens, ça ne s'inscrit pas dans une vision de société. Et curieusement, les observateurs s'en contentent. Un ministre démissionne, on se pose la question de savoir s'il est candidat, mais on ne se pose pas la question de savoir quel est son projet.
Une année présidentielle, c'est aussi une année où, comme vous venez de le dire, Jacques Attali, on va débattre. Alors, ça peut être une grande vision du monde, mais parfois, ça peut être un thème principal qui cristallise le débat. Je me tourne vers l'historien que vous êtes, Jean Garrigue. Si on repasse un peu en revue les précédentes années présidentielles, quels ont été les grands débats d'idées qui les ont structurés?
Prenons l'exemple de 1981, il est incontestable que le débat se cristallise quand même sur les 110 propositions de François Mitterrand et une transformation radicale de la société française. Un véritable projet social, au fond social-démocrate d'ailleurs, parce qu'il était social-démocrate, les socialistes étant dégagés un peu de l'emprise du Parti communiste. En 1995, c'est la fracture sociale qui émerge, malgré tout, comme un révélateur d'un système qui est à bout de souffle, d'un système social qui ne fonctionne pas, de la grande misère des banlieues, etc. Il y a quelque chose là qui fait irruption dans le débat. Il y a toujours, en 2007, on peut dire que Sarkozy l'emporte parce que il arrive à imposer, alors à la fois le terrain de la sécurité, de l'autorité, mais qu'on avait déjà vu apparaître avec Chirac en 2002, mais aussi cette idée d'une sorte de rénovation néolibérale qui va tout changer. Bon, il y a toujours comme ça un débat qui cristallise, une idée qui cristallise le débat.
Alors justement, au-delà de ce débat, Jean Garrigue et Jacques Attali, à quel moment on a le sentiment, dans une année présidentielle, que ça y est, c'est joué? C'est fini,
je peux cette manière. Vous répondre là-dessus, si vous permettez. En 81 et la dernière élection. En 81, pour moi, ça a été joué à un moment très précis, très particulier, c'est peut-être inaperçu, dans une émission qui s'appelait Cartes sur table, les journalistes interrogent François Mitterrand, et l'émission se passe banalement, on est en février 81, et François Mitterrand a 2 points de retard, c'est-à-dire fait 4, hein, 48-52, dans les sondages. Et à la fin, le générique est parti, et il lui pose la question, Monsieur Mitterrand, un sondage va annoncer demain que la peine de mort reste extrêmement souhaitée par les Français, vous êtes pour son retrait, qu'est-ce que vous avez à répondre? Je ne pense pas que la question ait été posée d'une façon spécialement amicale. Et il a répondu, je sais que les Français sont pour leur maintien, mais moi, en mon âme et conscience, en fonction de mes convictions, je pense qu'il faut la supprimer. Les sondages sont inversés, immédiatement après. Pourquoi? Parce que les Français se sont dit « Ah, ben celui-là, il est capable d'être impopulaire parce qu'il croit en ce qu'il dit. » Et donc, tout le reste est devenu crédible. Et donc, c'est un grand moment, je pense, où les Français ressentent la crédibilité des choses. Sur la dernière élection présidentielle, à mon avis, ça s'est joué sur un sujet beaucoup plus dérisoire, qui est la taxe à 75%, qui a manifesté sur un hasard de meeting une intuition politique forte qui était
de François Hollande,
de préempter sur les inégalités sociales.
Et ça s'ajoute sur les derniers mois, Jean Garrigue, sur cette question?
Oui, il y a très souvent comme ça des moments de charnière qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, les fameux débats télévisés de l'entre-deux-tours qui ne font qu'entériner une dynamique, mais il y a des moments justement en 95, lorsque Jacques Chirac, interrogé par Hervé Chabot, confirme sa volonté d'aller au pouvoir. Et là, on voit très bien que la dynamique est avec lui et que Édouard Balladur, au contraire, est en train de s'affaisser, qu'il n'aura pas cette énergie, et c'est ce qui permet à Jacques Chirac de l'emporter.
Alors, on va écouter Jean-Pierre Raffarin, que j'évoquais justement il y a un instant. Jean-Pierre Raffarin qui compare les premières et les deuxièmes campagnes des candidats présidents.
Ce que je crois très, très important, en effet, c'est que la deuxième campagne n'est pas magique. Et très souvent, on a tous rêvé, la première campagne de Giscard est magique, la seconde ne l'est pas. La première campagne de Chirac sur la fracture sociale est magique, la première campagne de Mitterrand est magique, et la seconde ne l'est pas. Je dois dire aujourd'hui que Nicolas Sarkozy a quand même fait une performance assez exceptionnelle, c'est qu'il a imposé sa stratégie, c'est-à-dire que à 2 mois et demi de l'élection, il a fait du deuxième tour l'enjeu.
Alors c'était Jean-Pierre Raffarin chez Patrick Cohen sur France Inter le 15 février 2012. Il évoquait la deuxième campagne de Nicolas Sarkozy, président sortant. Si on se projette un peu dans les mois qui viennent, Jacques Attali, on voit que c'est un peu ça. La deuxième campagne de François Hollande, ça va pas être une campagne magique, loin de là. C'est un euphémisme.
Il faudrait d'abord qu'il soit candidat.
Vous avez un doute?
J'ai pas spécialement de doute, mais je pense que s'il n'est pas candidat explicitement dans les jours qui viennent, ses chances d'être réélu s'amenuisent à chaque minute.
Cette campagne, alors, comment vous la voyez se profiler?
En effet, il y a beaucoup d'incertitudes. Je crois que l'élu sera celui qui prouvera aux Français qu'il les aime et qu'il a un projet pour elles. Et pas qu'il aime le pouvoir ou qu'il est en situation de revanche. Et pour l'instant, je vois personne qui incarne ce portrait robot.
Emmanuel Macron, dont vous avez été proche, dont vous êtes proche.
Je suis.
Vous croyez en son talent politique?
Emmanuel a été mon collaborateur et j'étais très honoré de le présenter ensuite à François Hollande, dont il est devenu un excellent collaborateur. Maintenant, reste à voir ce qu'il va faire et est-ce qu'il va. Encore une fois, moi je reviens à ma question de base. Quel projet? Quel projet? Pour l'instant, le seul projet cohérent, c'est je dis malheureusement, parce qu'il n'y a aucune vantardise en disant ça, le seul projet cohérent, c'est celui que nous avons mis sur la table. J'aimerais qu'il y en ait d'autres.
Jean Garrigue, sur cette année qui se profile, vous lui trouvez quelles caractéristiques et quelle saveur par rapport aux présidentielles précédentes ?
Moi, je lui trouve une saveur très, très désagréable, surtout en ce moment, puisqu'elle s'est cristallisée autour de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy et de la question de l'identité, mais comme toujours polluée par tellement de paramètres qui n'en font pas un véritable projet d'avenir. Et je la trouve inquiétante parce qu'effectivement, il n'y a pas de grand projet qui se dégage. J'y verrais éventuellement la réémergence d'une figure assez classique dans notre histoire contemporaine, qui est celle de l'homme providentiel sage et protecteur. C'est-à-dire que dans une période de crise, de désarroi, il y a la réémergence de Gaston Doumergue, voire de Raymond Poincaré en son temps, et de ce qu'a pu être même le général de Gaulle en 1958, c'est-à-dire d'une figure qui va apaiser les tensions et réunir, au fond, à fédérer un peu les énergies autour de sa dimension protectrice, mais avec, malheureusement pour lui ou pour cette figure...
Que vous ne citez pas, mais c'est Alain Juppé.
Qui pourrait être Alain Juppé. Mais, à contrario, un besoin de renouvellement, un besoin de... Donc un mécontentement généralisé et un besoin de renouvellement politique, idéologique, qui me paraît totalement inédit. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans deux aspirations qui peuvent apparaître comme contradictoires.
Jacques Attali ?
Oui, je suis d'accord avec Jean Garrigue. Les Français ont besoin de quelqu'un qui rassemble, qui protège, mais aussi qui ose. Et il n'y a personne aujourd'hui qui incarne les trois dimensions. Rassembler, protéger, oser.
Bah justement, vous disiez depuis 3 ans que vous pensiez que le prochain président serait un inconnu. Et on a le sentiment d'une situation assez particulière cette année. Il n'y a jamais eu autant de challengers, jamais eu autant de candidats déclarés. Un phénomène qui est amplifié par le phénomène des primaires. On va y revenir dans un instant. Et en même temps, on n'a jamais aussi peu su avec certitude qui pourrait être président.
Oui, oui, bien sûr, parce que le jeu des médias est tel que si on n'est pas candidat à la primaire, on n'existe plus. Et donc tout candidat rêvant à une élection à finir comme conseiller général a intérêt à être candidat à la primaire. C'est la seule garantie qu'il peut avoir d'avoir finalement un poste de conseiller général.
Mais est-ce que justement les primaires, du coup, ne sont pas au détriment du débat d'idées que vous appelez de vos voeux ?
Elles sont non, pas plus que le reste. Elles sont pas au détriment si les candidats venaient aux primaires avec des programmes. Si les électeurs, si les journalistes refusaient de recevoir un candidat s'il n'a pas d'abord son programme. Et s'il lui parlait d'autre chose que d'espérer une petite phrase contre ses adversaires, mais son programme. Nous sommes tous complices de ce théâtre vide. Parce que nous n'exigeons pas à nous-mêmes et aux autres de faire l'effort de s'intéresser au sujet, l'école, la défense, la police, la justice, la réforme fiscale, etc.
Mais en même temps, ce que vous dites me rappelle un peu ce que disait Arnaud Montebourg à l'époque. Notre candidat, c'est le programme, c'était le NPS. Et en même temps, ça n'a pas bien marché. On a le sentiment que, est-ce que peut-être les citoyens, eux, ne s'intéressent pas à cette question-là ?
Peut-être parce qu'ils ne s'intéressaient pas à son programme, mais pas au programme.
Jean Garrigue, sur cette question, sur ce rôle quand même des primaires, parce que c'est une vraie nouveauté, qui a été introduite la dernière fois, en 2012. Cette fois, la droite et la gauche vont s'y plier. Est-ce que ça se fait au détriment ou pas du débat d'idées, selon vous ?
Une excellente idée démocratique lancée justement par Arnaud Montebourg à l'époque, à gauche, pour favoriser le débat démocratique et qui se transforme, on le voit bien, une sorte de combat des chefs pour exister, tout simplement, ce que disait tout à fait Jacques Attali sur la scène politique. Et l'on voit bien à quel point ce débat est faussé par les postures. Regardez à droite, où ceux qui apparaissent précisément comme les candidats favoris sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, alors qu'au fond, on sait très bien que s'il y a un programme qui est un peu plus charpenté, un peu plus clair, c'est celui de François Fillon, mais qui est largué dans les intentions de vote. À gauche, on voit émerger comme ça des ébauches de projets, mais autour de 2-3 idées, comme celle d'Arnaud Montebourg, une sorte de souverainisme un peu remâché. Donc, où sont véritablement les idées ? Et là, il y a un gigantesque échec, justement, de ce que devaient être les primaires, me semble-t-il.
Alors, Jean Garrigue rappelait que la dernière fois qu'on a eu une vraie alternative, peut-être c'était en 2007, entre 2 candidats tout à fait nouveaux. Jacques Attali, vous avez le sentiment que le fait qu'il y ait un président sortant amoindrit la possibilité d'un débat d'idées parce que ce candidat va ménager une porte de candidature jusqu'au plus tard possible va empêcher le débat.
Plus il tarde à être candidat, moins il a de chance d'être élu. Donc je lui souhaite de décider d'être candidat rapidement. Maintenant, en effet, rien n'est joué. Par exemple, le fait dont on n'a pas parlé d'avoir la certitude d'avoir le Front National au second tour, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ça soit certain. Comme on le voit très souvent.
Pourquoi ?
Parce que les Français, ils l'ont fait dans les dernières élections, les élections régionales. Au moment de voter, ils votent pas pour le Front National. Ils jouent avec l'idée de le faire, mais sinon, ils le font pas. Non, les Français éliront et enverront au second tour ce vraiment qu'ils ont envie de voir au second tour. Or, aujourd'hui, oser, rassembler, protéger, il faut un candidat qui ose et un candidat qui rassemble. Et il y aura ces deux portraits au second tour.
Pour conclure ce débat, Jean Garrigue, sur un candidat pour protéger, un candidat qui rassemble.
Le problème, c'est que pour pouvoir oser, il faut s'appuyer sur une majorité d'idées, comme elles ont existé, par exemple, sous la Troisième République. Et pour arriver à une majorité d'idées, eh bien, le système d'alternance, le système binaire devenu ternaire d'aujourd'hui, de la présidence, il est à l'opposé de ça. Et il faut donc, me semble-t-il, réfléchir à transformer nos institutions. Je ne dis pas de passer à une Sixième République, mais réfléchir à la manière d'élire nos députés et de constituer des nouvelles majorités d'idées.
Jacques Attali, Jean-Garry
a tout à fait raison. L'élection présidentielle est peut-être sans importance. Ce qui va compter, c'est l'élection législative qui suivra et les majorités qui se constitueront, qui ne seront sans doute que des majorités de coalition.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jacques Attali et merci Jean-Garry de nous avoir éclairé sur donc cette singularité de notre vie politique qu'est l'année présidentielle. Tout de suite, place à la séquence internationale de l'émission. Il est 13h21, vous écoutez France Culture et l'Atelier du Pouvoir.
France Culture, l'Atelier du Pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Alors que nous nous interrogeons aujourd'hui sur la singularité et l'évolution de l'idée d'année présidentielle, nous avons décidé pour ce premier atelier pouvoir de la saison de faire un très grand pas de côté et de vous emmener en Afrique centrale, au Congo, Brazzaville et au Gabon. Ces deux pays ont connu en 2016 des échéances présidentielles majeures et mouvementées qui ont vu la réélection des présidents sortants, Denis Sassou Nguesso pour le Congo en mars dernier et Ali Bongo Ondimba, le fils d'Omar Bongo pour le Gabon il y a quelques jours à peine. Ces deux pays, on le sait, sont des régimes autoritaires, les élections sont manipulées, si ce n'est fabriqué par le pouvoir en place, et l'enjeu d'une alternance n'est pas le même que dans une démocratie. On le voit dans la contestation des résultats au Gabon ces jours-ci qui ont donné lieu à de nombreuses violences. Pour autant, cela signifie-t-il qu'il ne se passe rien lors d'une année présidentielle ? Pour comprendre ces enjeux d'année présidentielle en contexte autoritaire, je reçois aujourd'hui Florence Maurice. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI et que vous travaillez essentiellement sur l'Afrique centrale. Alors, ma première question, c'est presque une question d'ambiance. À quoi ça ressemble une année présidentielle en Afrique centrale, au Congo, Brazzaville et au Gabon ?
Ça ressemble, je dirais, à un moment de tension. En fait, c'est une année où on se demande comment ça va tourner. Est-ce que cette question est toujours présente ? Est-ce qu'il va y avoir des violences ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de violences ? Ça commence des mois avant, on assiste à un ballet diplomatique de gens qui viennent rencontrer les autorités, voir comment avance le contexte électoral pour essayer de minimiser les risques de contestation post-électorale comme celle à laquelle on assiste actuellement au Gabon. Et puis ça s'amplifie avant le scrutin. Hein. On a vu là, à Libreville, des gens aller faire des provisions dans les magasins, acheter de l'eau, du sucre, des biens de première nécessité pour pallier à d'éventuelles violences après le scrutin. Une année électorale, c'est aussi un gros moment de décalage entre les attentes et les besoins réels d'une population et la tournure que prend la campagne avec des attaques très personnelles, avec des slogans qui semblent très prometteurs mais qui sont très vagues, le développement, l'émergence, avec des calendriers comme ça très lointains mais très peu de propositions concrètes. C'est aussi le clientélisme, voilà, à toutes les échelles, hein, on irrigue toutes les couches de la société. C'est aussi une année de durcissement des libertés, il y a généralement davantage d'arrestations d'opposants, il peut y avoir des coupures d'Internet, tout ça, ça colore cette année.
Et ça qui est intéressant parce que quand on vous écoute, on se dit mais en fait, en même temps, ce sont des régimes assez contraints, ce sont des dictatures et puis il y a des élections. Alors comment ça se passe institutionnellement ces années présidentielles ?
Alors on est, faut se rendre compte, dans des systèmes électoraux restreints. Hein, donc au Gabon, un peu plus de 600 000 électeurs sur une population de moins de 2 millions d'habitants. La proportion est à peu près la même pour le Congo-Brazzaville. Pourquoi ? Hein, des populations très jeunes, plus de la moitié de la population à moins de 18 ans, et puis une grande défiance de manière générale vis-à-vis de la chose politique. Ce sont aussi des systèmes électoraux jeunes, Voilà, en 25-30 ans, les premières élections multipartites présidentielles datent des années 90, après l'époque des conférences nationales. Alors comment ça fonctionne? Sur le papier, c'est assez classique. Hein. Il y a des candidats qui se présentent, qui ont généralement le temps de la campagne accès aux médias, une commission électorale qui organise le scrutin, qui les transmet au ministère de l'Intérieur, qui les proclame. Mais ce système se heurte en fait à des verrous qui favorisent pas l'alternance. Des campagnes, quelles sont ces verrous? Des campagnes officielles très très courtes, 15 jours, 3 semaines maximum, ce qui évidemment fait le jeu du pouvoir qui est accusé par l'opposition de faire campagne tout le long de l'année avec les moyens de l'État. Il y a aussi une mainmise forcément sur les institutions. Hein, les institutions chargées de régler les litiges électoraux sont sous la coupe, on peut le dire, du parti au pouvoir.
J'ai rappelé justement que, à ce titre-là, que en parlant de ces verrous, qu'ils ont permis aux deux présidents sortants, hein, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba, d'être élus au Congo-Brazzaville et au Gabon. Est-ce que ça veut dire que dans ces systèmes, tout est joué d'avance ou est-ce qu'il peut y avoir des surprises?
Alors on dit en Afrique qu'on n'organise pas des élections pour les perdre. C'est une phrase qu'on entend souvent. C'est pas toujours vrai, heureusement. Après des décennies d'opposition plus ou moins fantoche, c'est vrai que on assiste à l'émergence d'une opposition souvent issue du Sérail, hein, qui vient des rangs du parti au pouvoir, mais tout de même plus structurée qu'avant. Et ça donne lieu à des surprises. Au Gabon, on a vu hein, quelques jours de l'élection, le ralliement de deux poids lourds de l'opposition. Derrière Jean Ping, la grande figure de l'opposition, hein, qui était très proche du père d'Omar Bongo, ça a quand même donné une coloration plus frontale à l'élection à laquelle on a assisté. De même, au Congo-Brazzaville, on a eu cette candidature surprise du général Mokoko, hein, qui quelques semaines encore avant le scrutin était conseiller spécial à la sécurité du parti. Il n'était pas une de ces grandes figures d'opposition qui se recyclent d'élection en élection qu'on voit tout le temps. Ça c'est des surprises et ça colore.
Ça aurait pu faire basculer l'élection, vous pensez?
Après, c'est la question de la réponse en face. Ça peut éventuellement faire basculer l'élection quand on est dans un régime parfaitement démocratique qui fonctionne bien.
Et justement, on est dans un régime qui n'est pas tout à fait parfaitement démocratique dans ces pays. Et j'ai rappelé que les élections gabonaises se sont déroulées, par exemple, sur fond de violence, comme souvent malheureusement en Afrique centrale. Alors, quelle est la place de la violence dans ces années présidentielles?
Il y a plusieurs formes de violence. Il y a une violence verbale très forte. On l'a vu vraiment là au Gabon. On a assisté à une campagne électorale que les Nations Unies même ont qualifié de délétère. Hein. Ça avait beaucoup contribué à accentuer l'inquiétude autour de cette élection. Et puis, il y a une violence physique. On voit ce qui se passe actuellement à Libreville, hein, avec des arrestations. Et puis, il y a aussi l'utilisation de la violence avec l'agitation du spectre des années passées. On voit ça très fort au Congo-Brazzaville, avec ce conflit très, très violent qui a eu lieu dans le pays. Et dans certains quartiers sud de Brazzaville, pendant la campagne, certains hommes politiques arrivaient en meeting en disant « si vous ne votez pas pour Denis Sassou Nguesso, eh bien ce sera la guerre ». De même, utilisation de cette violence, on voit que dans ce même pays, Congo-Brazzaville, le jour où la Cour constitutionnelle valide les résultats de l'élection, au même moment, dans ce même quartier sud de Brazzaville, il y a un embrasement. On assiste à une attaque qualifiée de terroriste par le pouvoir en lien avec des gens qui étaient des acteurs importants pendant la guerre civile, alors qu'aujourd'hui, les observateurs et les diplomates s'interrogent encore sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment.
Alors finalement, Florence Maurice, vous qui êtes journaliste à RFI, chez nos confrères et spécialistes donc de l'Afrique et de l'Afrique centrale, quand vous observez cette année présidentielle dans ces pays que sont le Gabon et le Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'elle nous dit sur ces systèmes politiques et leur évolution ?
Que le degré de maturation démocratique voulu au moment des conférences nationales est encore assez imparfait. Mais il y a quand même des évolutions positives qu'il faut noter, notamment une forte participation des gens. On a senti une opposition et des populations qui vont s'inscrire sur les listes électorales, qui vont participer au jeu électoral et qui pensent que c'est malgré tout en étant présent dans les bureaux de vote et en observant le système de l'intérieur qu'on peut éventuellement le faire évoluer plutôt qu'en se disant tout est joué d'avance, alors ne participons pas.
Merci Florence Maurice pour cet éclairage. On remercie également à nouveau Jean Garrigue
et Jacques Attali qui sont venus nous éclairer sur ce qu'est une année présidentielle en France. Vincent,
je rappelle justement que Jean Garrigue a sorti un livre avec Jean Ruhlmann, Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles chez Talendier, et que Jacques Attali a co-signé avec un groupe d'experts, 100 jours pour que la France réussisse, publié chez Fayard.
C'est la fin de cet Atelier du Pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Antoine Dulster, réalisation Vincent Abouchard, à la technique aujourd'hui Myriam Guillot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter @AtelierPouvoir. On se retrouve samedi prochain à la même heure, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Ariane Chemin cette fois qui sera à vos côtés. Moi je vous retrouverai dans 15 jours, mais vous serez avec Ariane. Vincent, pour parler de quoi?
Nous parlerons des présidents dans leur rapport avec les journalistes politiques.
Un rapport certain avec des livres récents, ça n'aura échappé à personne. À la semaine prochaine donc pour un nouvel Atelier du Pouvoir. Dans un instant, c'est la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau qui reçoit Jérôme Mézoz pour son livre La littérature en personne. Bon week-end à tous sur France Culture.